Je vous invite, pour ceux qui étaient là les derniers dimanches, à poursuivre notre étude de la vie d'Élie. Nous suivons le prophète Élie et donc pour d'autres à prendre le train en marche. Et nous allons donc aujourd'hui aborder un épisode très connu qui est la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Nous lisons donc dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 16. 1 Roi 18 à partir du verset 16. Abdias, qu'Élie avait rencontré, donc alla à la rencontre d'Akab, Élie fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui attires le malheur sur Israël ?» Et lui répondit, « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël. Au contraire, c'est toi et, la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël autour de moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de l'Achéra ou d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha du peuple, de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté, moi seul, prophète du Seigneur, et il y a 450 prophètes de Baal ici. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils se choisissent un taureau, qu'ils le découpent et le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple lui répondit, « D'accord. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous donc un taureau, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il leur dit, « Écoutez, criez à pleine voix, puisqu'il est Dieu, il doit peut-être penser à autre chose, ou il est occupé, ou encore peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il va se réveiller. » Ils crièrent à pleine voix et se firent selon leur règle des incisions avec les épées, avec leurs lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire jusqu'au soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, « Ton nom sera Israël. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 CA de semence, c'est-à-dire 14 litres environ. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. On remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et à ce moment-là, le feu du Seigneur tomba. Il dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre en disant, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Et Élie leur dit, saisissez ces prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre à l'ouest de Kishon, et là, il les égorgea. Jusqu'ici, notre lecture. Dans toute confrontation, il arrive un moment où sonne l'heure de vérité. Personne ne peut plus reculer. Il faut se dévoiler, donner ce qu'on a, donner ce que l'on est. Avant cela, avant l'heure de vérité, on peut temporiser, on peut bluffer, on peut donner le change. Mais l'heure de vérité met tout le monde au pied du mur. Et c'est ce qui se passe dans notre récit. Voilà 3 ans que, sur la parole d'Élie, la famine sévit en Israël. Mais tout le monde peut encore se cacher derrière toutes sortes d'excuses. Élie a affirmé que c'est le Seigneur, Yahvé, qui punit Israël à cause de son infidélité. Mais les prophètes de Baal peuvent dire de leur côté que si la famine survient, c'est parce que certains en Israël ont irrité les Baals. Le roi Achab, lorsqu'il vient à la rencontre d'Élie, l'interpelle en lui disant « Es-tu toi celui qui jette le trouble en Israël ?» Élie lui rétorque « Non, c'est toi qui jette le trouble, parce que tu t'es écarté du Seigneur, parce que tu as abandonné les commandements de Dieu pour servir les Baals. » Le peuple d'Israël, dans son ensemble, quant à lui, souffre de la famine, mais n'a pas l'air de se remettre en question plus que cela. On ne revient pas au Seigneur, malgré la parole d'Élie, parce que finalement, le culte de Baal, c'est quand même la religion d'État. Et qui sait, peut-être que quand même, Baal pourrait apporter la pluie, la fertilité. Il ne faut peut-être pas gâcher cette possibilité. Pourtant, on sait que Élie a prononcé cette parole de menace au nom du Seigneur. On se rappelle dans les chaumières que c'est lui qui, le premier, a annoncé la famine. Et elle s'est réalisée à sa parole. C'est impressionnant. Mais que faire? Il n'y a plus de prophètes de l'Éternel. Ils sont arrêtés, ils sont tués ou ils sont cachés. Les prophètes de Baal, eux, sont nombreux. Ils ont les faveurs de la reine. Il peut être dangereux de se mettre clairement d'un côté. Alors autant suivre le mouvement, tenter de survivre, on verra ce que dira l'avenir, autant garder ses chances de tous les côtés sans trop prendre position. C'est pour mettre fin à ce jeu de dupes qu'Élie convoque une grande confrontation. Il dit à Achab, fais rassembler tout Israël auprès de moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté ou d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. D'emblée, le ton est donné, c'est Élie qui convoque au nom du Seigneur. Et voici que quelques jours plus tard, probablement, à l'appel du roi, une foule d'hommes et de femmes de partout gravissent le mont Carmel. Une marche de 450 mètres de dénivelé à peu près depuis la plaine côtière. Le mont Carmel domine la plaine côtière sur le nord du pays. Peu avant le sommet du mont Carmel, il y a un endroit où il y a une vaste étendue qui permet certainement à tout ce monde de se rassembler. Une fois que tout le monde est là, le cortège du roi fend la foule. Il domine certainement sur son cheval d'apparat. Et puis voilà les prophètes de Baal, d'Astarté, qui s'avancent aussi, qui forment un groupe immense. Vous imaginez, 400, 450. Ils sont là en force, un peu arrogants certainement, eux qui ont les faveurs de la reine et qui assurent la religion d'État. Quelque chose doit se passer, oui, mais quoi? La foule qui représente tout Israël est là, mais que sait-elle exactement? Qu'attend-elle exactement? On ne le sait pas. Il est vrai que quand on est dans la foule, on ne cherche pas forcément toujours à savoir. Hein. On est là, présent dans ce qui se passe. On participe, c'est tout. Bien vite pourtant, la foule va découvrir qu'elle n'assiste pas simplement à un spectacle ou à une démonstration de force. Car voilà Élie qui apparaît. Il est seul, face à tous. C'est impressionnant de le voir là, seul face à tout ce monde. On sait qu'il n'est pas le bienvenu ici. Il a en face de lui tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Il n'est pas intimidé pour autant. Ses yeux regardent plus loin. Ses yeux regardent au Seigneur qui l'envoie, au Seigneur qui le garde. Il s'approche du peuple rassemblé. Sa parole est forte, vigoureuse. Il interpelle chaque membre de la foule, venu peut-être là juste pour voir. Et il pose une question essentielle, forte, qui renvoie chacun à un choix fondamental, celui de sa position par rapport à Dieu. Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Vous noterez, le peuple est venu certainement à cause de cette sécheresse qui sévit depuis 3 ans. Il espère peut-être un grand événement, peut-être une cérémonie nationale pour changer quelque chose. Et voilà qu'il entend que le problème n'est fondamentalement pas là, c'est pas fondamentalement le problème de la sécheresse. Le problème, il est en chacun, dans son attitude de cœur par rapport à Dieu. Et Dieu ne changera pas la situation extérieure si d'abord le cœur n'est pas changé. Rappelons-nous aussi cette priorité dans nos prières ou pour nous-mêmes. Pourquoi met-il le doigt lorsqu'il s'adresse à son peuple? C'est essentiellement, c'est d'abord son indécision qu'Élie souligne. Élie ne dit pas « Pourquoi avez-vous abandonné le Seigneur ?» Ce n'est pas ça la question qu'il pose. Son reproche est « Pourquoi ne choisissez-vous pas clairement ?» Avec cette image très évocatrice de quelqu'un qui saute tantôt d'un tantôt sur l'autre et qui ne se décide pas parce qu'il est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans vraiment choisir. Comme quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser ou qui ne veut pas savoir sur quel pied danser, qui ne veut pas choisir. Alors c'est étonnant quand même, parce qu'on a quand même assez nettement l'impression, d'après le texte biblique, que le peuple d'Israël est quand même assez nettement du côté des Baals, qu'ils ont choisi leur camp, plutôt que d'être du côté de Dieu. Pourquoi reprocher à ce peuple d'osciller d'un pied sur l'autre? C'est certainement parce que un bon nombre d'Israélites se rassurent en quelque sorte à bon compte. Et on peut imaginer un discours de ce type qui dise « Nous servons les Baals, oui, mais nous n'abandonnons pas complètement le Seigneur. Il reste le Dieu de nos pères. Il reste le Dieu de notre peuple. » On n'abandonne pas totalement, mais on sert aussi les dieux Baals. On n'est pas contre, mais pour l'instant, on favoriserait plutôt ce culte-là. Voyez le genre de langage? On entend parfois des personnes qui disent, même esprit, « Je ne prie plus, mais je n'ai pas relié mes valeurs chrétiennes. » Un peu pareil. Ou encore, « Je garde ma foi en Dieu, mais je vis ma vie à ma manière. » On entend parfois ce genre de choses-là. Et le schéma est le suivant. On conserve un peu et on délaisse beaucoup. Et le peu que l'on conserve permet de couvrir tout ce que l'on a abandonné. Et on se rassure comme cela à bon compte. On se rassure comme cela à trop bon compte. Il me semble que Élie invite ici d'abord à un regard de vérité. Jusqu'à quand allez-vous jouer à ce petit jeu-là? Jusqu'à quand? Ce jeu de va-et-vient qui vous cache la vraie vérité, la vraie réalité de votre situation. Certains Israélites, en tout cas, apparemment, donc, pensaient pouvoir maintenir Dieu, le Seigneur, et Baal, et ménager d'une certaine façon l'un et l'autre. Mais pour faire ce genre de choses, il faut finalement faire soi-même sa petite sélection de ce que l'on retient de la foi en Dieu. C'est à ce prix-là, au prix de faire sa petite sélection, qu'on peut garder un pied dans la foi et un autre pied à côté. Dieu demande à son peuple, qu'il aime, qu'il le sert, Dieu demande un amour entier. Et Dieu demande une confiance exclusive. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Et il demande cela parce que lui-même nous donne un amour entier, parce que lui-même se donne totalement pour nous. Dire que l'on garde une certaine foi en Dieu tout en s'attendant à une idole comme Baal, c'est finalement faire sa petite sélection dans ce que Dieu demande. Et c'est carrément mettre de côté les commandements qui condamnent toute idole, toute idolâtrie. Et quel que soit l'emballage par lequel on présente les choses, la réalité c'est aussi qu'on transgresse la parole de Dieu et qu'on la réduit à ce qui nous convient. Et je crois qu'il nous faut rappeler ici que nous ne disposons pas de la parole de Dieu. Nous ne disposons pas de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous convient d'un côté et mettre de l'autre côté ce qui ne nous va pas. Nous avons à garder nos deux pieds bien ancrés dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nos deux pieds bien ancrés dans le respect des orientations de cette parole pour notre vie. Nos deux pieds bien ancrés dans la sagesse de vie que cette parole nous donne. Nous avons à faire des objectifs de vie. Nous donne cette parole nos propres objectifs pour notre vie et ceci dans la totalité de ce que la parole nous donne. Et pour cela, il est important que nous sachions tester régulièrement la cohérence de nos comportements, de nos choix avec les objectifs de Dieu pour nous. Il nous faut veiller à rester pieds dans cette parole et tester donc la cohérence de nos choix en relation avec cette parole. Et là où nous découvrons que nous ne sommes pas 100% cohérents, revenons au Seigneur dans la repentance plutôt que de commencer à danser un peu d'un pied, un peu de l'autre pied et mener les deux choses en parallèle, quitte à un moment donné à devoir faire le grand écart. Ayons à cœur d'avoir les deux pieds bien ancrés dans ce que Dieu désire pour nous. Et je dirais que s'il faut nous donner un repère de ce que sont les objectifs de Dieu pour nous, il me semble que l'objectif que l'on peut se donner comme repère, l'objectif principal de Dieu pour nous, c'est, selon l'expression de Paul, former Christ en nous. C'est cela l'objectif de Dieu pour nous. Former Christ en nous. Et je crois que c'est une bonne question à nous poser en face de tels choix de vie, en face de telles habitudes de vie ou de comportement que nous avons, en face de telles priorités que nous pouvons aussi choisir. Est-ce que c'est compatible avec Christ formé en moi? Est-ce que c'est compatible avec Christ formé en moi? Si nous voyons que vraiment dans notre vie, nous tenons à quelque chose qui s'oppose à Christ formé en nous, si nous maintenons sciemment quelque chose qui n'est pas compatible avec cet objectif de Dieu, il ne faut pas nous voiler la face. Nous sommes en train alors de faire comme les Israélites, d'être tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, et quelque chose qui nous convient au Seigneur. Jusqu'à quand serez-vous tantôt d'un pied, sur un pied, tantôt sur l'autre, et passerez-vous de l'un à l'autre comme cela, sans faire une synthèse véritable? Les deux pieds dans la ligne de ce que Dieu attend de nous. Élie, après poser cette question, prolonge et indique le chemin à suivre. Et ce chemin, c'est le chemin d'un choix clair, d'un choix entier. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Je relève d'abord la forme. Pour Élie, il est clair que seul le Seigneur, Yahvé, que seul le Seigneur est Dieu. Baal n'est qu'une illusion, n'est qu'un néant. Et les trois années de sécheresse, d'ailleurs, en ont déjà fait la preuve. Mais il invite les Israélites à se prononcer pour eux-mêmes. Si c'est le Seigneur, choisissez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Élie veut que l'adhésion au Seigneur soit bien ancrée, bien assumée. C'est parce que l'on reconnaît vraiment le Seigneur comme Dieu que l'on pourra faire un choix clair pour lui, pour le suivre. Et je crois que nous avons, nous aussi, à viser cela pour nous. À reconnaître personnellement, fortement, que c'est le Seigneur qui est Dieu. Et c'est ayant reconnu cela que nous pourrons avancer pour le suivre aussi de manière cohérente. Qu'est-ce qui nous permet de dire « c'est le Seigneur qui est Dieu » plutôt que « c'est Baal qui est Dieu » ou toutes sortes d'autres valeurs qui peuvent prendre la première place? Qu'est-ce qui permet vraiment de dire cela? Je pense qu'il est bon que nous testions un peu nous-mêmes sur ce qui nous amène à pouvoir affirmer « oui, c'est le Seigneur qui est Dieu ». Il me semble qu'il y a quelques voies, plusieurs voies que l'on peut souligner pour aller vers cela. Je dirais qu'il y a d'abord ce que nous avons pu expérimenter de Dieu dans notre propre vie. La façon dont nous avons goûté vraiment que le Seigneur est bon, que le Seigneur est fidèle pour nous, que le Seigneur agit, que le Seigneur transforme, que le Seigneur sauve. C'est peut-être très simple de pouvoir dire, voilà, je sais d'après ce que j'ai vécu que le Seigneur est Dieu. C'est parfois des éléments très précis, mais c'est quelque chose de fort. Et quelque chose que personne ne peut nous ôter si on l'a vraiment vécu personnellement. Vous savez, cette rencontre, cette expérience faite par un aveugle-né lorsque Jésus l'a guéri. Et cet aveugle-né, on veut lui poser toutes sortes de questions sur qu'est-ce qu'il pense de Jésus, etc. Et à un moment donné, alors qu'il est pressé de questions théologiques de tas de gens qui veulent le déstabiliser de toutes parts, cet homme dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est lui qui a fait ça pour moi. Et je pense que nous avons à avoir aussi une telle certitude par rapport à ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y a aussi, deuxièmement, ce que Dieu a réalisé indépendamment de notre vie, de ce qu'il a réalisé dans l'histoire. Il y a les promesses qu'il a faites autrefois, la réalisation de ses promesses. Et nous avons lu dans le psaume 138, il dit « Ton nom s'est attesté par l'accomplissement de tes promesses ». Et il est bon pour nous aussi de recueillir cela pour nous dire « Oui, c'est le Seigneur qui est Dieu ». Au centre de tout cela, comme l'aboutissement de tout cela, il y a ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu n'a pas été oui et non, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais le oui de Dieu éclate de manière totale en la personne de Jésus-Christ. Il s'est manifesté totalement comme la pleine fidélité de Dieu à lui-même, le plein accomplissement des promesses de Dieu, la pleine attestation de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose de fort, d'infiniment précieux à saisir. Et puis il y a aussi la sagesse de Dieu, la pertinence de sa parole, de ses commandements, la force des valeurs qu'il nous propose. Nous avons à être ancrés dans tout cela. Ancrés dans tout cela. Vous savez, aujourd'hui, on nous offre bien plus de substituts à Dieu qu'il n'y avait autrefois en Israël avec les Baals. On nous en offre des tas, l'offre est large aujourd'hui. Et nous avons besoin d'avoir en nous-mêmes et pour nous-mêmes des repères forts qui nous permettent de dire, voilà pourquoi je crois en Dieu, voilà pourquoi je crois en Jésus-Christ, voilà pourquoi je crois en l'Évangile. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si Baal est Dieu, suivez-le, mais sachez où vous en êtes. Mais ensuite, nous dit Élie, si c'est le Seigneur qui est Dieu, alors suivez-le. Si vous avez reconnu vraiment qu'il est le Seigneur, alors il s'agit de marcher dans ses voies. Et de le faire d'un cœur entier, sans être constamment divisé en nous-mêmes entre d'un côté le vouloir et d'un autre côté ne pas le vouloir. Si le Seigneur vraiment est Dieu, alors faites un choix clair pour lui et désirez véritablement que sa vie porte en vous tout son fruit. Mais sachez aussi que ce choix va exclure d'autres appartenances. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Baal, c'est ce qu'Élie disait. À ses contemporains. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu et faire confiance aussi, accessoirement, en Baal. C'est l'un ou l'autre. Et Jésus nous rappelle aussi cela. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, ici, c'est l'argent. Que nous avons aussi à retrouver cela pour nous aujourd'hui. Un choix clair, une vie unifiée autour de ce choix. Nous vivons dans un monde qui est complexe, dans un monde qui est compliqué. Et beaucoup traduisent dans leur vie cette complexité en se disant finalement, tout est tellement compliqué que je peux renoncer à chercher à avoir une vie unifiée. Et je peux très bien, parce que tout est tellement compliqué, être une personne ici et une personne là et une autre encore ailleurs. Je peux avoir toutes sortes de facettes parce que tout est tellement compliqué. La vérité d'un moment peut ne pas être la vérité du moment suivant. Beaucoup de gens autour de nous vivent comme cela, avec des facettes multiples, avec des personnes multiples selon les circonstances parce que tout est tellement compliqué. Et on peut être tenté de faire pareil. Être une personne à l'église, être une autre personne, être une toute autre personne encore dans un autre milieu, et encore ailleurs. C'est très courant, c'est très tentant. Ça permet parfois d'être très léger, très aérien. Les gens qui ne se posent pas de questions sur leur cohérence, c'est très facile, on prend les choses comme ça vient, on est très libre. Mais cela s'oppose à ce que nous dit Élie ici. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, servez-le. Et si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. On n'est pas, si c'est Dieu qui est Dieu, faites un petit peu pour Dieu et un petit peu pour Baal de l'autre côté. C'est ou bien. Ce n'est pas un pas en avant, un pas en arrière, trois pas d'un côté, trois pas de l'autre côté. C'est pas ça. Si le Seigneur est Dieu, servez-le. Et je crois qu'il est important pour nous de nous dire que oui, la réalité est parfois très complexe. Mais qu'est-ce qui va pouvoir unifier nos vies? C'est d'être justement d'un cœur entier pour le Seigneur. Et de chercher vraiment à vivre, comme je disais tout à l'heure, les deux pieds dans ces voies, en cherchant vraiment à ce que cela puisse unifier profondément notre vie. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, et d'un cœur entier. Et c'est quand on est dans d'un cœur entier pour le Seigneur qu'on découvre aussi toutes les richesses et tout ce que nous apporte de suivre sa voie. Le Seigneur reconnu doit unifier nos vies. Alors pourquoi une position aussi nette? Est-ce que c'est de l'intolérance? Est-ce que c'est juste un manque d'ouverture, des œillères? Si Élie a convoqué le peuple d'Israël au Carmel, c'est pour faire la preuve qu'il y a une différence, une immense différence entre un côté et l'autre de ces deux pieds entre lesquels on bascule sans cesse. S'appuyer sur le Seigneur ou s'appuyer sur Baal, c'est absolument pas pareil. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour cela qu'Élie a proposé cette confrontation entre Dieu et Baal, entre les prophètes de Baal et lui-même, le serviteur du Seigneur. Vous aurez remarqué que les termes de cette confrontation sont clairs, simples, indiscutables. Voilà les choses. On va placer un taureau sur un autel, sans y mettre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Pourquoi le feu? Pourquoi faire du signe le feu et non pas la pluie qui était tellement attendue? Je pense qu'Élie voulait qu'on ne puisse pas dire que c'est un hasard au bout du compte, et que l'un a bénéficié de la prière de l'autre. Hein, s'il a fallu du temps pour se former un nuage, il ne faudrait pas que, quand le nuage arrive, on puisse dire que c'est parce que les premiers ont prié que c'est les deuxièmes qui en bénéficient. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Élie ne défavorise en aucune manière le camp d'en face. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que parmi les attributs de Baal, il y avait le fait d'être le dieu de la foudre, le dieu de l'orage. Élie agit ici dans cette confrontation de manière parfaitement honnête, de manière parfaitement équitable. Rien n'est biaisé. Il n'y a pas de piège. Les prophètes de Baal pourront faire ce qu'ils ont à faire. Ils en auront le temps, ils en auront le loisir, et ils pourront invoquer Baal sur le terrain qui est le sien, et même sur son meilleur terrain, puisqu'il est le dieu qui apporte le feu. Et après leur intervention, on voit qu'Élie ira même jusqu'à rendre plus difficiles les conditions de sa requête à lui, puisqu'il versera de l'eau sur son autel. Et je crois que Élie nous invite ici par cette attitude, par cette confrontation tellement honnête, tellement équitable, et nous invite à avoir confiance en la vérité. À être honnête, à être équitable, parce que nous avons confiance en Dieu, confiance en son action, confiance en sa parole. Alors ça, c'est vrai aussi, c'est vrai intellectuellement. Nous n'avons pas à caricaturer la pensée des autres pour faire mieux sortir la vérité de Dieu. La confrontation honnête est bien plus forte, et elle va bien plus loin. Mais c'est vrai aussi pratiquement. Les moyens détournés, les moyens biaisés, les entourloupes pour arriver à nos fins et forcer le cours du destin ne sont pas compatibles avec la confiance que nous voulons mettre dans le Dieu de vérité. Et l'apôtre Paul avait la même attitude qu'Élie à cet égard. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont jamais des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'honnêteté donne du crédit à ce que nous sommes, donne du crédit à ce que nous disons. Voyez, Élie ici, il est seul dans un contexte hostile, mais sa proposition est respectée. Elle est respectée parce qu'elle est juste, parce qu'elle est équitable pour tous. Et c'est vraiment important de noter cela. La différence, elle se fera vraiment sur le terrain ensuite. Et vous voyez, nous avons lu ce qui s'est passé. Les 450 prophètes sont là, sur les devants de la scène. Et on les voit qui crient, qui prient, qui invoquent, qui sautent. Ils se font au bout d'un certain temps des incisions partout sur leur corps. Ils entrent en transe, tout un déploiement de moyens, de tentatives humaines pour solliciter, pour favoriser, pour obliger presque l'intervention de leur Dieu. De matin jusqu'à midi, puis de midi jusqu'à l'heure de l'offrande du soir, ils se dépensent comme cela. Ils déploient tout ce qu'ils peuvent déployer. Et à midi, Élie se moque un peu, pas des prophètes, mais de leur Dieu. Il a peut-être trop de choses à penser. Il dort peut-être. Il a peut-être besoin qu'on le réveille. Et voilà ces hommes qui reprennent de plus belle. Ils renversent l'autel qu'Élie avait construit. Soit ils le renversent dans leur gesticulation parce qu'ils bougent tellement, soit peut-être pour s'attirer aussi la faveur des balles en disant il y a peut-être là quelque chose qui empêche l'action des balles. L'angoisse doit certainement les étreindre par moments. Le spectacle devient pathétique. Mais nous a-t-il dit, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont eu leur chance, ils ont eu le temps, ils ont pu tout déployer. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Lorsqu'Élie se présente, la tonalité, l'ambiance change du tout au tout. Le peuple est certainement déjà bien troublé par tout ce qu'il vient de voir. Élie les invite tous à s'approcher. Ils peuvent s'approcher, il est seul, il n'y a pas 400 personnes qui font écran. Ses gestes sont calmes, sont mesurés. Le premier geste d'Élie est de restaurer l'autel du Seigneur détruit par les prêtres de Baal. Tout un symbole de la réalité d'Israël. Il a soin de prendre 12 pierres. 12 pierres. Il rappelle au peuple ses fondements. L'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob. Le temps où Israël était encore un peuple uni, 12 tribus, avant la séparation des tribus du Nord, qui avait conduit aussi à se détourner de Dieu. Il rappelle ce que Dieu a été autrefois, ce à quoi il faudra revenir aussi. Il faudra retrouver ces fondements-là. Puis Élie place l'offrande, demande qu'on ajoute de l'eau. Et là, seul face au peuple, seul tourné vers Dieu, Élie prie. Pendant des heures, on a gesticulé, on a crié, sans effet. Ça a tourné au désastre. Mais sur les ruines de ce champ de bataille, une parole s'élève, claire. Elle ne revendique aucune puissance pour elle-même, mais elle s'adresse à un Dieu réel, à un Dieu qui agit, à un Dieu qui écoute, à un Dieu qui intervient. Élie s'adresse à Dieu, fort de ce que Dieu a déjà manifesté. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui s'est fait connaître déjà à son peuple, qui a fait alliance avec lui, qui l'a accompagné déjà dans l'histoire, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu qui a choisi son peuple. Élie s'adresse aussi à Dieu avec pour seul désir que le Seigneur se glorifie lui, qu'il s'authentifie lui-même. Et on a l'impression d'entendre le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que l'on sache que c'est toi qui est Dieu en Israël. Et il y exprime dans sa prière, avec des mots simples, le souci de l'honneur de Dieu. Et il y rappelle aussi dans cette prière les années de la sécheresse et demande à Dieu que ton intervention éclaire la raison profonde de ces années et manifeste vraiment que c'est selon ta parole, selon la parole de l'Alliance contre ceux qui s'en écartent, que tout cela s'est passé. Là encore, il veut que Dieu soit authentifié, dans ce qui s'est passé. Et puis, comme dans le Notre Père, après avoir mis en premier le souci de Dieu, Élie ne s'oublie pas lui-même. Il ne s'oublie pas lui-même et il dit, « Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. » Et oui, c'est que Élie s'est engagé lui aussi. Il s'est engagé là totalement. Il est là seul, devant tous. Si rien ne se passe, on ne donne pas cher de sa peau et il le sait. Élie a aussi engagé sa foi, toute sa foi dans cette confrontation. Et il demande au Seigneur, oui, de se glorifier. Mais il demande aussi au Seigneur de ne pas l'oublier, lui, son serviteur. C'est aussi comme cela que Dieu est un Dieu vivant. Un Dieu qui n'abandonne pas les siens quand il s'engage pour lui. Et finalement, Élie demande à Dieu qu'il se manifeste et qu'ainsi il ramène le cœur de son peuple à lui. Et là encore, c'est un essentiel qui est dit. Il ne s'agit pas de faire une démonstration pour la démonstration, mais de manifester vraiment qui est Dieu pour ramener son peuple au Seigneur. Élie ne l'oublie pas cela non plus. Il a le souci de Dieu, il a le souci de son peuple également. Et c'est intéressant de voir que Élie a le temps de dire cette prière. Dieu lui donne le temps de dire cette prière, de le dire clairement. Dieu n'intervient pas tout de suite, pas trop vite. Il veut que ces choses soient dites. Il veut montrer qu'il agit en réponse à la prière de son serviteur. Mais il veut aussi que le sens de ce qui va se faire puisse être manifesté, puisse être préservé. Et la différence est monumentale entre les gesticulations des prophètes de Baal et la prière d'Élie. Une prière sobre, une prière calme, bien qu'intense, une prière enracinée dans tout ce que Dieu a déjà manifesté, dans tout ce que Dieu a déjà promis. Une prière riche d'une intimité et d'un engagement personnel et entier. Et cette différence dans la forme déjà se fait éclatante, lumineuse, lorsque soudain l'éclair jaillit du ciel et consume tout. Que nous apprend cet épisode ? Il nous apprend que le Seigneur est au rendez-vous, à l'heure où il faut s'attester. Le Seigneur est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous de la demande de son serviteur fidèle, Élie. Le Seigneur est au rendez-vous aussi pour donner une fois de plus une chance de revenir à lui, à son peuple qui ne le mérite absolument pas. Le Seigneur est au rendez-vous, sans déploiement d'artifice, en réponse à une prière sobre, à une prière adressée avec foi. Le Seigneur est au rendez-vous pour permettre un nouveau départ et pour faire échapper à l'impasse d'un appui illusoire qui n'apporterait rien. Le Seigneur est au rendez-vous. J'aimerais que nous gardions cette pensée pour nous aussi. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui fidèlement s'attendent à lui, comme Élie l'a fait. Dieu n'abandonne pas lorsque l'on cherche de tout son cœur à marcher dans ses voies, comme Élie l'a fait. Dieu a les ressources pour intervenir. Dieu est assez puissant pour s'attester lui-même, même face à l'adversité. Dieu est à la hauteur des défis. Il l'a prouvé ici. Il l'a prouvé de manière encore plus forte en Jésus-Christ, dans tout ce qu'a manifesté la vie de notre Seigneur, dans sa mort qui révèle jusqu'où va son amour, dans sa résurrection d'entre les morts qui dit toute sa puissance. Il peut être invoqué avec foi, avec sérénité, dans la paix de ceux qui s'appuient sur lui. Le Seigneur est au rendez-vous. Marchons avec lui. Levons-nous pour lui. Attendons-nous à lui, d'un cœur ferme, d'un cœur entier. Il saura, lui, faire la différence. Amen.